Mon prochain invité est un grand fan de sport, tous les sports, puis pratique beaucoup de sport. C'est un ami personnel, alors c'est pour ça que je le connais. Mais c'est parce qu'on parlait de c'est quoi être un vrai fan, puis Sylvain a répondu par texto à la question, puis je trouvais que sa réponse était vraiment bonne. Puis en plus, je sais qu'elle est vraie, puis je le salue à l'instant même. Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir, Mario.
En plus, tu as regardé le match de tennis, tu l'avais-tu oublié? C'est en écoutant la radio que tu as réalisé que ça se passait ce soir?
Tout à fait, Mario, tout à fait. J'étais au bureau, je travaillais, puis quand j'ai la chance, j'écoutais ton émission, puis tu m'as fait penser, sauf que je t'ai pas tout à fait écouté, parce que ce que tu recommandais, c'était comme de continuer d'écouter ton émission, puis d'écouter le tennis, mais je me suis plongé dans le tennis, parce que ma femme écoutait plutôt une autre émission, puis j'ai dit, là, chérie, on écoute le tennis, parce que ça a l'air que ça chauffe.
Puis, étais-tu contente d'avoir changé de poste? Parce que, tu sais, c'est ça que je viens de dire, c'est quand tu embarques dans quelque chose, puis que quelqu'un te conte l'histoire, comme tu as sûrement conté bien vite ce qui se passait, puis c'est qui, puis bang, le monde, tu sais, je veux dire, c'est difficile de résister à ce qu'on voit là, avant que je te parle de football.
Non, mais Chantal était, elle savait c'était qui, elle est là, elle avait entendu parler un peu comme tout le monde, sauf qu'elle m'a dit, ben oui, on écoute le tennis, puis là, c'était, ah ouais, la petite, puis ça y allait, là. Elle était plus fan que moi, je pense, là.
C'est extraordinaire.
Ouais,
comme quoi, là, tous ceux qui disent, ah, moi, le hockey ou le baseball, ou le peu importe, on entend souvent ça, puis à un moment donné, boum, tu tombes sur un match de basket, les Raptors sont en finale avec Kawhi Leonard, puis tout d'un coup, c'est-tu donc le fun de basket, ça, ou le tennis ce soir. Maintenant, la question ce soir d'entrée de jeu, là, avant que Leila l'emporte, c'était qu'est-ce qu'un bon fan de sport? Puis j'aimerais ça que tu me répondes pour les auditeurs, Sylvain, ce que tu m'as répondu en texto, parce que c'est une excellente réponse, puis je le sais que c'est vrai en plus.
Ben, en fait, moi, je suis un amateur de tous les sports, comme tu disais, mais particulièrement des Alouettes. J'ai assisté avec mon père à des matchs à l'autostade étant plus jeune. Puis, j'ai toujours une histoire d'amour avec les Alouettes, avec Sonny Wade et compagnie. Puis, quand j'ai commencé ma carrière au niveau marketing promotion, j'ai aussi travaillé pour les Concordes un petit peu. Donc, j'ai toujours un attachement, même quand l'équipe est partie. Puis quand les Alouettes sont venues, ben j'ai eu la chance d'assister à un des premiers matchs au Stade McGill. Puis je suis devenu dès ce moment-là un fan de la première heure de ce retour-là. Puis j'ai acheté des billets de saison, puis j'ai commencé à amener des clients, puis à amener des amis. Puis bon, tu sais, un peu dans nos amis de hockey, la plupart c'est plutôt des fans de la NFL.
Moi, oui.
Je connais peu la NFL, là, donc je suis pas un véritable amateur. Je suis plutôt le gars qui va écouter les finales, un peu comme les autres genres de partisans, mais je suis un vrai partisan de la Ligue canadienne de football. Donc, j'ai toujours maintenu ça. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu des billets de saison. Puis, ce que les gens semblaient oublier, c'est qu'on a eu 10 années de football extraordinaire. On a gagné 2 Coupes Grey. Et là, ben ça a été un peu plus difficile parce qu'on a mal préparé le relève. Ça, c'est un autre débat, mais peu importe. Mais pour moi, un vrai amateur, c'est celui qui continue d'encourager son équipe. Puis là, ben les boys, parce que je m'étais vraiment un peu laissé aller en disant que les Alouettes étaient parfaits puis qu'ils comprenaient rien, puis pourquoi qu'ils aimaient pas le football canadien. Mais là, quand ça s'est mal, ben là, on m'a rendu un petit peu la moyenne de ma pièce. Puis, on m'a taquiné avec ça, mais je pense qu'il faut continuer à encourager son équipe à ce moment-là. Puis, ça n'a pas été des années faciles, mais de garder, je pense, des billets de saison. Puis, que tu as des billets de saison, juste de les continuer à les écouter à la télévision, je pense que c'est ça un vrai fan.
Puis, as-tu l'impression que tu sport confondu, Sylvain, quand même, tu en as vu, là, qu'on est des bons, que nos équipes comptent sur des bons partisans en général?
Je pense qu'on est vite sur la gâchette, mais ça, c'est notre sang latin. Je pense que c'est parce qu'on a ce désir de la victoire. On était tellement gâtés par le Canadien. Moi, je me souviens pas avoir été une parade de la Coupe Stanley, parce que je me suis dit, bon, ben j'en ai vu 2-3 dans les dernières années. Quelle erreur, tu sais. Mais j'ai eu la chance quand même de vivre ça. Mais je pense que c'est ça. On était tellement gâtés par le Canadien que... C'est difficile de supporter les comparaisons, mais si on prend notre équipe de football, on a quand même eu plusieurs saisons gagnantes sans gagner la Coupe Grey. Il y a toujours juste une équipe qui finit par gagner le trophée, le gros trophée, peu importe le sport, la discipline. Donc, sinon, il y a des équipes de football de la ligne de la NFL. Je pense que ça fait très, très longtemps. Puis quand on parle de certaines équipes de baseball, les Cubs de Chicago, puis les équipes qui ont été des décennies, puis les amateurs continuent derrière eux. Donc, je pense que est-ce qu'on est des bons amateurs? Je pense que oui. Je pense qu'on aime le sport, mais c'est sûr que, comme tout le monde, on aime toujours gagner.
On n'est pas parfait comme amateur. Des fois, on échappe de temps en temps. Des petits commentaires plus cinglants quand ça va moins bien. Ben, hey, c'est une belle intervention, Sylvain. Je suis vraiment content. J'ai l'impression presque de me retrouver dans un après-match du jeudi soir. Il me manque juste un petit breuvage, mais j'ai une bonne petite bouteille d'eau. C'est bon pour la santé.
Bon, ben, je prendrai une gorgée à ta santé parce que moi, c'est pas de l'eau, mon cher Mario.
Ouais, un bon petit vino. Salutations à ta douce. Merci beaucoup, Sylvain. C'était super.
Lâche pas ton bon travail.
Merci.
Prends notre pouvoir de retour en nombre. Bye-bye.
Merci, Sylvain. C'est bien apprécié. Sylvain Fortin, un bon ami, puis un grand amateur de sport, détenteur de billets de saison des Alouettes, qui dit que les vrais fans, un bon fan, ben quand ça va mal, tu restes un fan. Au téléphone, on poursuit. 514-790-9850. Jacques-Alexis, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes un bon fan de sport, un bon partisan d'une de nos équipes ou de plusieurs de nos équipes, Jacques-Alexis?
Moi, je suis un fan des Bears de Chicago depuis 1985 parce que c'est la première équipe de football que j'ai vue dans ma vie. Je connaissais pas ça, le football. Puis des gars voulaient me faire entrer dans l'équipe de football. Puis en fait, s'il y avait un match par semaine à Radio-Canada, puis c'est le même que j'ai découvert le football. Puis j'ai vu Walter Payton, puis je suis tombé en amour avec cette équipe-là, puis elle a gagné le Super Bowl.
Ah, ça aide, ça!
C'est incroyable. Puis ils n'en ont pas regagné depuis. En fait, à Montréal, je crois que les fans sont très émotifs et sont, à part le Canadien, je dirais que c'est difficile de trouver des fans constants. Tu sais, chez les Alouettes, il y en a, des vieux de la vieille. Chez le CF Montréal, c'est un peu compliqué, je trouve. Tu sais, il y a des fans des Mordus Soccer, mais il y a beaucoup d'Eurosnobs. Et en fait, c'est un peu pour ça que je t'appelais.
Les Eurosnobs?
Ben, des fans qui pensent que la culture du soccer doit être absolument calquée sur la façon de faire en Europe. Il faut que tu sois absolument avec des bannières, il faut que tu sois agressif, il faut absolument qu'il y ait de la fumée, il faut absolument que tu... qu'ils se prennent un peu pour... c'est-tu obligé d'être ça, la culture du soccer ici en Amérique du Nord? Je suis pas convaincu.
Avez-vous l'impression que les gens qui commettent des petits dérapages se disent « ben c'est ça la culture du foot » Ils cautionnent en disant « ben c'est comme ça que ça se passe dans les grandes villes dans le monde où il y a un gros club de foot? » Je sais pas.
C'est un peu l'impression que ça m'a donné. Moi, j'ai pas été souvent au soccer à Montréal. J'ai été... ailleurs dans le monde, j'ai assisté à des grands matchs ailleurs dans le monde, mais à Montréal, le premier match que j'ai amené mes enfants, c'était le 27 au soir, et en amenant mon gars qui vient de commencer à jouer au soccer, tu sais, on arrive là, puis en se rendant à la file d'attente, ma blonde croise un gars avec la face en sang, les bouteilles qui volent partout, la police qui débarque. Tu sais, le premier contact que mon plus jeune, qui était commencé à jouer au soccer cette année, a eu avec le stade Saputo, c'est ça. Avant de rentrer dans le stade. Tu sais, c'était la bagarre dans le parking avec les fans du TFC, puis qui ont vraiment été chargés par les fans de Montréal. C'est que ça, je trouve ça déplorable. Et il a fallu que j'explique à mon gars, tu sais, que ben non, c'est pas ça le trip, mais il a continué à m'en parler. À l'intérieur du stade, bon, c'est super, tu sais, les chants, ça ajoute beaucoup, puis c'est des gens vraiment, je veux dire, ça met beaucoup d'ambiance, ça, je suis 100% d'accord, puis à l'intérieur du stade, moi, j'ai pas vu de dérapage, mais à l'extérieur, c'était lamentable, puis j'ai trouvé ça triste, tu sais, parce que ça, je suis encore en train d'expliquer à mon gars, il a pas super le goût de retourner à cause de ces événements-là, tu sais.
Pourquoi donc, hein? Voyons donc, ben je comprends que c'est impressionnant.
Fait que quand des gars débarquent avec les tu sais, c'est marqué des gros mots sur les bannières, puis ça, je comprends la relation très compliquée qu'ils ont eue les fans. Puis eux autres, c'est des vrais fans de la première heure, mais tout de suite en partant, je trouve que c'est très tu peux être fan à la vie à la mort d'un club, tu peux chanter, ça fait partie de la culture du soccer, mais tu es obligé de devenir justement de tomber en porte-à-faux avec le propriétaire tout le temps.
Fait que vous, Jacques-Alexis, vous arrivez, vous êtes pas comme, vous êtes pas dans la guéguerre du rebranding, tout ça, vous allez voir en famille un spectacle, un match, un événement sportif, puis là, boum, vous. Mais là, c'était pas entre partisans de l'Impact, parce que j'entendais des histoires qu'entre partisans de l'Impact, des fois, ça chamaillait, parce que ceux qui osent arborer un chandail du récent rebranding, parfois, peut-être, se font taquiner le mot gentil, pour ne pas dire autre chose, par d'autres qui sont encore accrochés à l'Impact. Mais ça, c'était vraiment entre fans de Montréal puis de Toronto. C'est un peu comme Alexandre Pratt le disait plus tôt, puis dans son article ce matin, ça frise. Si ce n'est pas du hooliganisme, là, on n'est pas loin, là.
Ben, je veux dire, pour avoir vu du hooliganisme en vrai, je veux dire, s'ils souhaitent aspirer à ça, ils sont vraiment pas au niveau, là. Moi, j'ai vu la finale d'Euro, Italie, Angleterre, en Suisse, il y a vraiment super longtemps, puis je veux dire, ça avait rien à voir, là, c'était dangereux, là. Ça frôle, ben ça on dirait que ça calque ça un peu, tu sais, que ça, alors, c'est pas tout le monde, évidemment, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là. Il y a des super fans, puis leurs chants sont très drôles, sont très intéressants, mais oui, ça frôle un peu ça, je trouve, des fois.
C'est spécial, ben c'est un appel de très belle qualité, puis je serais très curieux que vous me reparliez la prochaine fois que vous serez au soccer, ou si jamais vous allez reconvaincre votre garçon d'y retourner, ou vous-même, ça vous met sur ses breaks un peu?
J'ai acheté un gilet, justement, du CF Montréal. Oh. Moi, j'ai de la misère encore à dire CF Montréal. Je comprends aussi, là, pour moi, c'est l'Impact, là, mais tu sais, j'ai acheté justement parce qu'il aime beaucoup Victor Wanyama, puis là, ben, tu sais, il voulait... Tu sais, j'ai acheté un gilet à mon plus jeune, un gilet à mon plus vieux, ma blonde, moi, on est arrivé avec notre kit CF Montréal, même si ça me parle plus ou moins, mais tu sais, c'était pour embarquer mes gars, puis tout ça. Pis,
ben oui.
Bon, je vais retourner, mais ça coûte cher aussi, là, mais tu sais, j'essaie de les faire écouter la télé, puis tu sais, l'intérêt, c'est de monter un peu la stratégie. C'est sûr que sur place, c'est complètement différent. Puis
il y a une affaire qu'on ne dit pas souvent. Tu sais, ce que vous me dites, vous me permettrez de compléter là-dessus, Jacques-Alexis, tu sais, d'amener... Tu sais, quand on y va en famille, quand on y va avec un de nos enfants, parce que des fois, on peut pas tous les amener en même temps, parce que ça coûte une beurrée, puis etc., puis, ouais. Ou des fois, tous ensemble, mais c'est des liens... C'est que oui, il y a le spectacle, mais il y a nous, le lien qu'on a entre nous de regarder un même spectacle ou un même match ensemble. Ça, c'est fort, hein? Ça crée des souvenirs, là, qu'on... Je veux dire, je suis sûr qu'ils vont se souvenir de ça très longtemps. Là, c'est non, sûr et certain.
Les Alouettes, je les ai amenés. J'ai été plus souvent aux Alouettes avec eux autres. Puis ça, on va au prochain match là, contre les Tiger Cats, je pense. Ou en tout cas, on va là, puis ils m'en parlent, puis ils sont prêts, puis ils ont vraiment hâte. Puis l'ambiance aux Alouettes est très, très différente de celle du soccer.
Jacques-Alexis, merci beaucoup de votre appel. Et si jamais, avez-vous regardé Léla gagner son match de tennis ce soir du coin de l'œil?
Non, j'ai manqué ça, malheureusement. Ben, en tout cas, ça, mais je vais écouter la finale, ça, c'est ça.
Puis vous pouvez entendre Sylvain Bruno, chef du développement du tennis féminin professionnel de Tennis Canada, entraîneur de Bianca Andreescu, et notre prochaine. C'est lui qui vous succède en ondes. Alors, si ça vous intéresse, je pense que beaucoup de monde au Québec vont vouloir entendre ses réactions à la suite de la performance de Léla ce soir. Merci de votre très bel appel, là. C'était vraiment bon. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au plaisir. Jacques-Alexis, nos auditeurs, merci de participer à l'émission ce soir. Sans plus tarder, allons tout de suite en vous rappelant. D'abord, je vais commencer par les choses moins émotives. Les Blue Jays ont-ils gagné? C'est 6-2 en début de 9e manche. Football, on y reviendra. Allons tout de suite aux vraies affaires. Leila Fernandez, après avoir tiré de l'arrière contre, je faisais des blagues tout à l'heure, Monica Lamitraille en début de match, là, c'était comme... Waouh, c'était l'armée bélarusse, là, ça passe, ça y allait au poste, 115 000 à l'heure, ping-bang, c'est dit, oh boy, ça veillera pas tard, mais non, c'est pas ça qui s'est passé, ça y prenait pas trois rendez-vous avec Sabalenka pour s'ajuster à son jeu, ça a réglé ça le même soir et gagne ça en trois manches. Sylvain Bruno est avec nous, bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir Mario.
Sylvain, tu disais l'autre soir, après la victoire contre Svitolina et la succession des trois victoires, Kerber, et ça commençait avec Osaka, t'as dit, c'est énorme. C'est quoi le qualificatif après la victoire de ce soir contre Sabalenka?
Ouais, gigantesque.
Écoute, là, je fais juste en parler, j'ai des frissons, c'est incroyable. Un mot galvaudé dans le monde du sport, mais parle-moi de toi dans ton œil d'expert. Comment tu as vu cette bataille-là à partir du début jusqu'à la fin?
Ben, effectivement, tu le mentionnais, là, le Sabalenka qui a commencé le match, c'était incroyable. Tout passait, frappait à 100 à l'heure. Et puis, en quelques minutes, ben, c'est 1-4. Elle est là, elle tire derrière. Mais c'est ça, elle a été elle-même. Elle est restée calme. Elle a vu juste, elle s'est ajustée au jeu de son adversaire et puis elle a déplacé, elle a mis des balles en jeu, elle a joué tôt et puis soudainement le jeu de son adversaire s'est effrité. Et après, ben, on a partagé les deux premières manches, mais la différence, on l'a vu en fin de match, mais c'est sur le plan mental. C'est la deuxième au monde, Sabalenka, qui, lorsqu'elle servait pour rester dans le match, s'est complètement effondrée. Elle s'est décomposée et c'est Leila qui a resté calme, qui a resté solide dans les grands moments. Et je pense que ça en dit long.
Wow! Écoute, les mots me manquent tellement je suis encore sur l'émotion de ça. Je regardais ça comme un match là, de tu sais comme show, tu sais n'importe quoi au hockey. À place ses coups, elle est en attaque Leila Fernández. Tu sais quand elle a une chance d'essayer de placer un coup sur la ligne, elle attend pas 20 minutes, elle y va. C'est quand elle pense qu'elle a une chance, boum. C'est vraiment impressionnant.
Elle est très précise. Elle est capable de bien sortir la balle du terrain et elle joue très tôt. Ça aussi, peut-être qu'il faut l'observer. Elle prend la balle très rapidement, très près de la ligne de fond. Et lorsqu'on joue contre elle, bien, on se sent tout le temps pressé dans le temps. On se sent bousculé. On n'a pas le temps de s'organiser parce qu'elle prend la balle tellement vite. Et ça contribue à faire de son tennis un tennis très offensif. Et elle varie un peu. On l'a vu utiliser la mortier. Elle joue intelligent. Elle a une bonne tête. Elle a une bonne vision du jeu. Elle joue en puissance. Oui, capable de jouer vite. Mais tu vois là, que c'est construit son truc. Puis c'est planifié. Puis écoute, c'est vraiment, vraiment incroyable d'avoir en finale. Qui aurait cru? Elle avait même pas un bon tableau. Elle avait un tableau super difficile. Elle n'était pas favorite. Elle a dû se taper Osaka, Kerber, Svitolina. Là, Sabalenka, à peu près tout le monde. Puis même ces deux premiers tours contre des filles qui n'étaient pas semis, c'était des tableaux difficiles. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de mérite.
Bon, t'es pas dans son clan rapproché, mais peut-être qu'il y a des communications avec son clan rapproché. M. Fernández, son équipe d'entraîneur, mais à partir du moment là, elle vient d'accéder à la finale, elle connaîtra son adversaire là, à l'issue du duel qui est en cours. Qu'est-ce qui, pour l'avoir vécu toi-même avec la victoire de Bianca au US Open, qu'est-ce qui compte à partir de là? Je veux dire, je t'écoute, j'avais envie de suggérer une réponse, mais c'est toi l'expert, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe à partir d'une victoire comme ça, puis là, tu sais que tu t'en vas en finale. Y a-t-il de quoi qui change par rapport à tout le reste qu'elle a vécu depuis le début de la quinzaine?
Je dirais que le test était après le match contre Osaka. C'est là que j'étais vraiment intéressé de voir comment elle était pour rebondir après cette énorme victoire-là au troisième tour. Là, depuis, il y en a eu d'autres, des grosses victoires. Et on a vu quand elle est revenue contre Kerber qu'elle était ultra, ultra motivée, qu'elle était affamée, que elle s'est pas contentée de cette énorme victoire-là contre Osaka. Et là, je te dirais que je suis convaincu, certain, elle a mentionné, je suis très content d'être en finale, j'ai hâte de jouer. Je suis sûr qu'elle va avoir le bon état d'esprit, qu'elle va se préparer de la bonne façon, qu'elle arrivera pas satisfaite ou juste en profiter. Je suis certain qu'elle va arriver là pour gagner le match. Ce sera encore une fois pas facile. Et je sais que j'aime bien ce qu'elle dit. Et elle en profite un peu aujourd'hui et à partir de demain, okay, on est back, concentration, préparation pour le match suivant. Et elle l'a démontré là. Et je pense que ça va être comme ça pour la finale.
Sylvain, je te demanderai pas de lever la main droite puis dire je le jure, là, mais quand tu as vu ça partir ce soir, là, Sabalenka qui envoyait des missiles, là, ça a été assez expéditif à 0-3. Dans ta tête, là, je veux dire, dis-tu ouais, ça sera pas long ou tu regardais, tu sentais-tu même dans les jeux qu'elle perdait en début de première manche, tu sentais-tu qu'elle était en train de prendre la mesure? Qu'est-ce que tu voyais dans ton œil avec l'acuité que tu peux avoir quand tu regardes une tennis, un joueur ou une joueuse?
Mais tu sais, c'est difficile de prédire tout le temps comment un match va se dérouler. C'est sûr qu'au début, j'ai dit, bon, OK, l'autre a un super début. On voit qu'elle n'est pas ajustée à sa puissance. Elle est peut-être un petit peu tendue. On va voir comment elle va s'ajuster. Puis elle a réussi à s'ajuster. Donc, non, initialement, j'étais pas ultra inquiet. Mais oui, ça aurait pu arriver que l'autre continue à sortir des coups tout le match. J'en ai déjà vu là, des joueuses qui réussissent à jouer un match parfait. Mais j'avais des doutes et je savais, surtout connaissant Leila, qu'elle était pour s'accrocher, qu'elle était pour trouver une petite part, qu'elle était pour rester présente, qu'elle était pas pour la laisser partir comme ça. Donc, seulement 19 ans, mais parfois, elle se comporte vraiment comme une joueuse qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Elle n'en a pas. Et ça, c'est particulier.
Dans mon emportement du moment, ou dans mon emballement, là, j'ai dit, parce que on apprenait plutôt cette semaine qu'elle devenait, je pense, la première joueuse en 16 ans à accéder, ou la plus jeune, pardon, pas la première, mais la plus jeune joueuse en 16 ans à accéder aux demi-finales au US Open. Et là, quand on a fait la nomenclature des adversaires qu'elle a eus, J'ai quasiment envie de dire que c'est une performance historique. Puis on a vécu l'histoire il n'y a pas tellement longtemps avec la victoire de Bianca au US Open. Puis je veux dire, mais tu sais, c'est historique. Je veux dire, Bianca, c'est historique. Puis là, qu'une autre Canadienne frappe à la porte là. Mais je veux dire, de battre. Hey, 73e mondial, explique-moi. Je veux dire, je sais pas jusqu'à quel point les adversaires devaient la prendre au sérieux parce qu'elle a battu des grosses pointures, mais en même temps, ils devaient se dire, ben non. Puis c'est ça que j'ai senti dans Sabalenka à soir. J'avais l'impression qu'elle voulait la tasser comme une fourmi, puis c'est pas de même que ça s'est passé. Là.
Non, écoute, tu parlais de Bianca. C'est sûr que Bianca, lorsqu'elle a 19 ans, elle aussi, lorsqu'elle a remporté New York, c'était un peu plus annoncé. Elle était arrivée à New York, elle faisait partie des têtes de série, elle avait gagné Indian Wells, elle avait gagné Toronto. Donc, elle faisait déjà partie, là, lorsque les experts s'exprimaient en début du tournoi, là, son nom revenait comme une des joueuses à surveiller, et ainsi de suite. C'est sûr que Leila était complètement sous le radar. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. Elle a eu, c'est ce que je viens de peu d'expérience, à peu près aucune expérience à ce niveau-là, de jouer des filles comme ça, une après l'autre, et sur le plus grand terrain du monde. Et ça, ça a énormément, énormément de mérite qu'elle réussisse à faire ça, parce que ça se passe live au US Open, puis elle a pas vraiment, elle a vraiment sauté des marches, là, ça c'est clair.
Ses adversaires doivent se demander qu'est-ce qui vient de se passer là, mais ça s'est bel et bien passé. Sylvain, qu'est-ce que c'est quand ta protégée, la joueuse avec laquelle tu travailles, comme tu l'as vécu, vient de remporter une demi-finale, que Arthur Ashe explose, que c'est la folie, que Bianca, ou maintenant Leila, devient la darling. Je veux dire, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion quand on est là, puis qu'on le vit aux premières loges?
Beaucoup. Parce qu'elle a mentionné, Leila, c'est beaucoup de sacrifices. C'est énormément de sacrifices. Elle a mentionné des larmes, du sang, des blessures, tout ce que tu veux, sur le terrain, à l'extérieur du terrain. C'est un peu et on sait que Leila, elle a quand même une histoire un peu unique, mais pour tout le monde, c'est énormément de sacrifices. Et c'est vraiment, vraiment très, très fort comme satisfaction, comme joie. Mais à quelque part, tu dis, c'est la finale, puis je veux pas me laisser emporter. Je veux pas me laisser transporter trop vite par cette joie-là, puis c'est tentant. C'est vraiment tentant de trop en profiter. Nous, on avait été prendre une petite pizza, elle avait fini très tard, là, son match le plus tard qu'elle est là, avec Virginie Tremblay, puis Hugo Dufeo, là, qui était avec moi, préparatrice physique, puis le partenaire d'entraînement, il était 4h du matin. Mais on était resté bien calme. Et surtout, il fallait aider Bianca à rester dans cet état d'esprit-là. Et puis, je sais qu'elle est là, super bien encadrée. Je sais, son père, on a des petites communications. Je le sais, je le connais depuis toujours. Donc, je sais qu'il y a un très, très bon travail. Je sais comment elle est là. Puis, elle va rester très terre à terre pour se préparer pour cette finale. Mais c'est vraiment tentant de vouloir en profiter.
J'imagine. Vous n'étiez pas capable de dormir. Quand tu dis là, une petite pizza dans New York, je ne sais pas si vous étiez dans un petit endroit incognito avec un capuchon sur la tête pour qu'elle se fasse reconnaître ou dans un endroit où il n'y avait pas accès au public, mais il n'y a pas...
Pizza 99 sous, là, c'est ça, sur le fly.
Bianca Andreescu, ouais. Demi-finaliste du US Open avec Sylvain Bruno, aller s'acheter une pointe de pizza à New York. C'est ça New York aussi en même temps, hein?
C'est ça, New York. Mais c'est ça, c'est ça qui est pour. C'est pour ça que c'est excitant.
Fait que Leila dormira pas tout de suite, là.
Non, mais c'est comme je te dis, ça l'a fini un peu plus tôt que Bianca, oui. Mais non, c'est une couche tôt. C'est vrai que c'est une couche tôt. On le voit en Fed Cup, on le voit tout le temps. Leila, mais là, elle va sûrement. Elle va vouloir jeter un coup d'œil sur ses adversaires, c'est certain.
Et quel serait. Puis on peut pas choisir qui choisit pour empire, Sylvain, mais. Quel duel? Les gens semblent tous souhaiter que les deux plus jeunes s'affrontent. Donc, que Sakkari perde ce soir contre Raducanu.
Et c'est possible. C'est possible. Sakkari, elle a vraiment un super tournoi aussi. Elle joue très, très bien. Puis, très, très difficile à jouer. C'est une fille qui est dans une forme extraordinaire.
Incroyable,
ouais. N'importe quoi. C'est une machine. Puis, Raducanu, ben, c'est elle aussi. C'est une histoire en passant aussi. Là. Elle est née à Toronto. Maintenant, elle est en Angleterre. Mais, issue des qualifications, là, elle a 3 matchs de plus, cette fille-là. Elle a déjà joué beaucoup, beaucoup de matchs, là, 3 matchs supplémentaires.
Mais comment expliquer donc, ça, que deux filles que personne ne voit venir puissent se retrouver en finale d'un des plus gros tournois au monde de tennis?
Ça arrive. Écoute, Raducanu, elle avait bien joué à Wimbledon, elle a fait le 4e tour. C'est là vraiment qu'on a comme « OK, il y a une petite Anglaise de 18 ans qui joue super bien. Elle a fait un bon tournoi là, depuis, plus un petit tournoi, elle a bien joué. » Mais Ben, c'est bon pour le tennis féminin. C'est bon qu'il y ait de la relève. C'est bon qu'il y ait plusieurs joueuses qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Puis, je pense que ça va faire une finale très... On va en parler beaucoup si jamais je joue contre Raducanu, parce que ça va être chacun une histoire particulière. Puis, les deux vont être 18 ans. Même Raducanu, je pense qu'il va avoir 19 ans au mois de novembre. Donc, être même un peu plus jeune que d'un mois ou deux que de Leila. Donc, et ça ferait une très belle finale, tout comme Sakkari. Peu importe l'adversaire, ça va être une belle finale.
Ah non, on s'ennuie pas là depuis le début. Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège que tu nous offres de nous partager ton expertise, Sylvain, à chaud comme ça. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine. Merci. Au revoir.
À bientôt.
Bye-bye. Sylvain Bruneau, il était là. Il a vécu tout ce que Leila vit là, avec Bianca au US Open. Et vous venez de l'entendre tout de suite après la victoire. Tu sais, je trouve que, en tout cas, c'est des beaux cadeaux. Je pense qu'il faut que j'aille en pause, hein, Geoffroy. T'aimerais-tu ça, j'aille en pause? C'est... Ah oui! Hey, ça, c'est les bruits de ce soir, là, que je ferme ma boîte. Ouch. Imaginez-vous, là, t'as 19 ans. Personne, ou à peu près personne, te connaissant en début de semaine. Puis le monde capote. C'est quelque chose. Wow. Hey, on va aller à la pause. On revient. 514-790-9850. On revient tout de suite. Qu'est-ce qu'un bon fan? J'ai plein de textos à lire. Puis en même temps, peut-être réaction à l'entrevue, à la victoire de Leila. On est là jusqu'à minuit.